Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Attention, l'échange que tu t'apprêtes à entendre s'annonce très inspirant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solène, une femme aux multiples casquettes et talents. Très ambitieuse, Solène n'avait qu'une envie lorsqu'elle était plus jeune, réussir sa carrière professionnelle, quitte à ne pas avoir d'enfants pour y arriver. Et oui, dans son imaginaire, haute responsabilité et maternité ne faisaient pas bon ménage. C'était sans compter cette entreprise aux valeurs familiales très fortes qu'elle a fini par intégrer. Une entreprise où l'équilibre vie pro-vie perso est central, où le nombre d'heures de présence importe moins que la qualité du travail fourni. Bref, cette entreprise dont on rêve toutes et tous, qui a permis à Solène de se poser les bonnes questions. Avait-elle finalement besoin de renoncer à l'une de ses envies pour assouvir l'autre ? Sans surprise, bien sûr qu'elle pouvait avoir les deux. C'est ainsi qu'elle a accueilli 3 enfants dans sa famille. Un premier garçon, puis des jumeaux. Est-ce que la parentalité a eu un impact sur sa vie professionnelle ? Oui, indéniablement. Mais pour le meilleur. Puisqu'après la naissance de ses jumeaux, Solène s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale et a créé l'application mobile Soft Kids, qui accompagne les enfants dans le développement de leurs soft skills, autrement dit leurs compétences socio-comportementales comme la confiance en soi, l'empathie ou encore la capacité à s'adapter à une situation donnée. Son but ? Donner toutes les chances de réussite aux enfants en les laissant maîtres de leurs apprentissages. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Solène.
Bonjour.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci.
Je suis ravie de te recevoir et merci d'être venue jusqu'à moi. C'est vrai que tu n'es pas de Lille, là où moi je suis. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle Solène, j'ai 42 ans, je suis mariée, maman de 3 garçons. Un aîné qui a 8 ans et des jumeaux qui ont 3 ans et demi.
Bon, félicitations.
Et j'habite en région parisienne.
Je vais te poser la question traditionnelle de prenant un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère ?
Eh ben non. Quand j'étais à la fac, je disais toujours j'aurais pas d'enfant. Parce que j'étais féministe, et je le suis toujours d'ailleurs. Et en fait, je me disais que d'avoir des enfants, ça serait un frein à ma carrière. Et comme à l'époque, j'étais déjà carriériste, j'étais présidente de l'association, je voulais absolument conquérir le monde et montrer que les femmes pouvaient faire les mêmes choses que les hommes. Et donc, j'avais cette image que si j'avais des enfants, je ne pourrais pas arriver à faire ce que je veux. Et en fait, tout a changé avec l'entreprise dans laquelle j'étais, qui s'appelle Shell, pour la nommer, qui est anglo-néerlandais. Et les Néerlandais sont très famille. À 17h, tout le monde arrête de travailler, on va s'occuper des enfants, on va les chercher à l'école, on emmène nos activités. Et ce qui fait que quand j'étais dans cette entreprise, j'ai pu voir et avoir des rôles modèles qui me montraient que je pouvais et avoir une carrière et avoir des enfants. Et donc, ça a fait son chemin. Donc, je me suis mariée à 30 ans. Et puis après le mariage, on a très vite discuté des enfants avec mon mari et décidé de fonder une famille. Et je me disais que c'était possible et oui, ça l'a été.
C'est intéressant, c'est vraiment ton cheminement est vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai que la maternité finalement est un frein dans les carrières des femmes, malheureusement encore aujourd'hui. Mm-hmm. On n'avait jamais abordé en tout cas la question de la maternité sous cet angle professionnel-là sur Prenons un café. Mm-hmm. Donc je trouve ça vraiment top. C'était le seul frein pour toi à ce désir d'enfant ?
Ouais.
Enfin, tu serais privée d'un désir du coup que tu avais probablement pour ta carrière ?
Ouais. Parce que je pense que je voulais tellement montrer que je pouvais réussir et que je pouvais aller haut et que je pouvais avoir une carrière, que en fait, voilà, je me disais non, mais ça sera pas possible parce que si j'ai une carrière, ou alors je me disais il faudrait que j'ai des enfants, mais limite que je les mette en pension et en fait ça a pas d'intérêt entre guillemets parce que si on a des enfants, c'est aussi pour les s'en occuper, les accompagner, etc. Et en fait voilà, quand j'ai vu, parce qu'en fait je suis très vite rentrée dans un programme en fait de carrière pour les femmes au sein de Shell qui s'appelait le Women's Career Development Programme, enfin voilà. Ouais. Et on avait des mentors. Et ma première mentor, c'était une Allemande qui avait 3 enfants et qui avait un poste de vice-présidente. Ouais. Voilà. Et donc, elle me démontrait qu'elle avait ses enfants et qu'elle arrivait à partir pas trop tard le soir et à quand même avoir une vraie carrière et avoir monté les échelons sans que ça lui pose aucun problème. C'était un exemple parmi d'autres dans l'entreprise, puisqu'on nous demandait de réfléchir à notre équilibre vie pro-vie perso. On avait même un PowerPoint pour ça.
C'est génial.
Où on réfléchissait, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, quel est le temps que je veux consacrer à mes amis, à mes activités, au sport, etc., à ma famille, à mon travail. Et en fait, on nous demandait de réfléchir à tout ça. Pour les Hollandais, rester jusqu'à 19h, 20h le soir, ce n'est pas faire preuve d'efficacité.
Au contraire.
Ouais. Voilà, au contraire. Et moi, j'ai eu un manager hollandais dès 2009. J'étais pas encore maman, mais il me disait déjà le vendredi, ah mais Solène, t'as bien travaillé ce soir, pars à 16h. Enfin voilà, donc c'était vraiment dans la culture d'entreprise. Du coup, ça m'a enlevé tous les freins.
C'est marrant parce que c'est une réflexion hyper importante qu'il y a plus de 10 ans du coup, et qu'on n'a toujours pas nous en France.
Bah non, parce qu'en fait en France on pense que plus tard on reste et plus efficace on est. Et en fait il y a plein d'endroits en France où les gens ils prennent encore des pauses café à 18h pour dire qu'ils sont partis à 19h, mais quel est l'intérêt?
Surtout c'est très bon de boire du café à 18h.
Voilà, c'est ça. Et en fait c'est vrai que aussi avec cette femme là qui a été mon mentor, elle m'avait posé une question qui m'avait assez bouleversée parce que j'en avais pleuré le soir. Elle m'avait dit mais après quoi tu cours? Parce que tu as l'air de beaucoup travailler, tu fais énormément de choses, tu fais beaucoup d'horaires. Et après quoi tu cours? Et après, c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai, là, qu'est-ce que je fais? Je fais que travailler, c'est quoi l'intérêt? Et elle m'avait aidée à revoir mes priorités et à ne travailler que sur ce qui avait un impact sur les gens, l'entreprise, etc. Et du coup, j'ai revu toute ma charge de travail et je n'ai plus pensé mon travail en termes d'horaire, mais en termes d'impact que j'avais sur l'entreprise, sur les gens, etc.
C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Est-ce que tu saurais dire d'où vient justement cette envie de carrière?
J'ai toujours été passionnée de politique, déjà. Alors moi, mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être Anne Sinclair sur 7 sur 7 et d'interroger tous les grands hommes du monde. Et c'est vrai que en fait, je me suis toujours engagée citoyennement. C'est-à-dire, enfin, ça a fait rire tous mes amis. J'ai été déléguée de classe, moi, du CP. J'ai fini en dernière année de master représentante étudiante au niveau du ministère de l'Éducation nationale à négocier avec Fillon. Donc voilà, j'étais toujours...
Ah oui, t'as toujours été hyper impliquée. Est-ce que tu es aussi déléguée de parents d'élèves?
Oui, oui, bien sûr. J'ai été présidente d'une crèche parentale associative pendant 6 ans. Donc en fait, c'est...
Ouais.
Voilà, et donc je me suis toujours investie au niveau associatif. Et après, en plus, c'était marrant parce que je voulais toujours avoir les postes un peu les plus importants, quoi. Et donc, je pense qu'il y a des choses comme ça qui m'ont marqué, des femmes du type Anne Sinclair. Après, ça va peut-être être bizarre, mais par exemple, moi, j'admire la reine d'Angleterre, quoi. Je me dis, mais cette femme, elle a vu, mais je sais pas combien de mecs passaient devant elle, etc. Et elle est toujours là. Elle a un sens politique de dingue. Ouais. Voilà, et je trouve que c'est des personnes assez inspirantes.
Mais elle a des enfants, la reine d'Angleterre?
Oui.
Elle en a 4.
Ouais, c'est vrai. Donc, c'était pas forcément un frein. Mais j'avais vraiment... Alors, je sais pas si c'est des films que j'ai vus dans les années 90, etc. Mais cette vision la femme, chef d'entreprise, qui est seule, qui peut pas avoir ses enfants, etc.
C'est vrai que culturellement parlant, dans tout ce qui est film et dans tout ce qui est série, on représente souvent la femme ambitieuse comme étant seule et n'ayant pas de vie privée. D'ailleurs, elle est très malheureuse en vie privée, qui arrive pas à garder un mec, qui pleure le soir parce qu'elle est seule, mais du coup, qui rentre super tard. J'avais lu un roman aussi il y a pas très très longtemps qui était un peu comme ça. ça, la nana ambitieuse qui quitte tout pour aller dans le sud de la France. Et bien sûr, là, tout est oublié. C'était pas un roman très intellectuel. Mais c'est vrai que c'est l'image qu'on a en caricature beaucoup, la femme ambitieuse comme étant seule et n'ayant pas de vie privée, quoi.
Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est tout ce que je déteste. Et en fait, je défends bec et ongles le fait que on peut avoir une carrière, des enfants, être épanouie, ouais. Et voilà, et faire beaucoup de choses. Quoi.
Ouais, carrément, carrément. Et tu as rencontré ton mari à quel moment de tout
Alors,
ce cheminement-là?
Bah, dans les associations étudiantes nationales. J'étais en master, donc j'avais 23 ans. Alors, ce qui est assez spécial, c'est qu'on a en fait vécu ensemble. On s'est mariés, j'avais 30 ans. Et en fait, deux semaines après notre mariage, il a eu un poste à Aix-en-Provence. Et donc, pendant 3 ans, il était à Aix et moi, j'étais à Saint-Cloud, en région parisienne. Et on faisait les allers-retours tous les week-ends. Et c'est aussi dans ces 3 ans qu'on a commencé à vouloir avoir un enfant. Et que quand on n'habite pas ensemble tout le temps, c'est un peu compliqué.
Le partage des tâches est beaucoup plus difficile, en effet. Ah ouais, et alors, quand vous êtes rencontrés, du coup, t'en remets les choses dans le contexte, t'étais sur un mode où tu ne voulais pas d'enfant. Ouais. Est-ce que vous en aviez discuté?
Un petit peu, ouais, et mon mari, ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas.
Ouais,
et
maintenant, il a le désir de paternité.
Ouais, il disait. Enfin, je pense qu'à cette époque-là, c'était pas trop un sujet pour lui.
Ouais.
Le sujet est plus venu après le mariage.
Et du coup, vous étiez d'accord. Et alors, comment ça s'est passé finalement? Puisque pendant 3 ans, vous avez vécu à distance. Comment vous avez cheminé justement? Quelle a été la solution pour penser justement à ce projet d'enfant?
Bon, on a essayé d'avoir un enfant, mais ça venait pas. Et du coup, mon mari, à un moment, a dit « Bon, bah, il faut que je remonte parce qu'on voit que ça le fait pas, c'est compliqué. » Et en fait, je suis tombée enceinte la semaine où il a su qu'il avait un job et qu'il remontait.
Ah ouais, comme quoi hein, il n'y a pas de hasard.
Voilà, c'est ça.
Non, mais c'est fou. C'est fou comme quoi tu... C'est comme si ton inconscient te disait non, tu peux pas faire ce bébé sans lui, quoi.
Voilà, c'est ça, je pense.
Ouais, c'est marrant, c'est fou. Et en termes de carrière, est-ce que ton mari aussi est assez carriériste?
Moins que moi.
Ouais.
Et d'ailleurs, en fait, quand il a pris ce job, qu'il est revenu à Paris, moi, je venais juste d'avoir un job international où je gérais, dans ce poste, j'avais 50% de la zone que je gérais qui était l'Asie.
Ouais.
Je devais partir.
Pas la porte à côté.
Voilà. Donc l'Inde, la Malaisie, enfin voilà. Et mon mari, en fait, quand il a passé l'entretien, il a dit « Je vous préviens, la carrière dans mon couple, c'est chez ma femme. Et donc si on a un enfant, etc., il faudra que je reste parce que c'est ma femme qui a la carrière et c'est elle qui a les déplacements. »
Waouh, ils ont réagi comment ?
Ils ont dit « Ok, d'accord, on note. » Je pense que,
ouais.
Voilà, ils le prenaient pour ses compétences. Ils avaient été le chercher, le chasser, etc.
Ouais.
Donc, ça n'a pas
Ouais, mais alors, chez un homme, ce n'est pas une question qui est posée, mais chez une femme, elle est posée, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est fou. Donc, lui, il a eu cet élan de justement affirmer sa position, voilà. Mais de toute façon, on ne lui aurait même pas posé la question, finalement.
Bah oui, mais en fait, il a anticipé. Ouais.
Et c'est bien, enfin c'est top. Donc ce petit bébé s'installe.
Voilà.
Comment tu vis ta grossesse, toi?
Alors, hyper bien. Donc j'ai mis longtemps à l'avoir, hein, parce qu'on a essayé un peu près 2 ans.
Ouais.
Mais super grossesse, au top. Super accouchement. Comme une lettre à la poste, en 1h30, nickel. Enfin, avec la péridurale au bon moment. Enfin, voilà.
Super.
Première nuit, ok, parce qu'il est né vers 18h. Deuxième nuit, plus compliqué.
La fameuse Java.
Voilà. Et après, tout s'est bien enchaîné. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est quand on fait la reprise du travail et qu'on doit laisser notre enfant à quelqu'un. Et en fait, je me suis dit, mais on nous bassine avec l'accouchement, la grossesse. Mais c'est pas ça le plus dur.
Non.
Le plus dur, c'est de laisser son enfant à quelqu'un qu'on connaît pas vraiment, quoi.
Et très tôt, en plus. Est-ce que toi, tu as eu envie, justement, parce que c'est intéressant, on est sur cet axe-là, est-ce que tu as eu envie de reprendre le travail assez tôt?
Ouais. Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée 3 semaines avant.
Ah ouais?
Parce que je me sentais
encore
bien pour pouvoir décaler après. Mais j'avais quand même envie de retourner au boulot.
Ouais. T'étais un peu pressée d'y retourner. Et donc, ton premier, la séparation est arrivée, il avait quel âge?
Il avait 4 ou 5 mois.
Ouais.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est toujours les trucs. Hein. Donc je devais faire une garde partagée et je le sentais pas. Il y avait un truc qui allait pas, j'en pleurais, je disais à mon mari, mais non, mais il y a un truc, là je le sens pas et tout.
Ouais.
Et en fait, ça a capoté au dernier moment parce que la nounou avait un problème de papier, etc. Donc ça, c'est pas fait.
Ouais.
Et je pense que ça m'a arrangée. Du coup, ma mère et ma belle-mère se sont proposés de venir le garder, ma mère le lundi, mardi, ma belle-mère le jeudi, vendredi. Et moi, j'avais dit à mon chef que j'étais un peu dans la panade, mon chef hollandais. Ouais. J'avais dit, bah, je télétravaillerai le mercredi avec mon bébé. Et il m'avait dit, pas de problème.
C'est génial.
Je parle de 2013.
Hein. Ouais.
Et en fait, on faisait déjà du télétravail de manière assez récurrente. Et donc, ce qui m'a laissé le temps de chercher une crèche, parce que j'avais l'impression qu'il serait plus en sécurité en crèche.
Ça te convenait mieux, quoi, toi.
Alors, pour l'anecdote, comme j'étais pas mal angoissée par ça, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu alternatif. Donc, j'ai fait une séance d'hypnose dans laquelle j'ai appris que quand j'étais petite et qu'on me gardait, j'avais eu un problème avec ma nounou.
Ah ouais ?
Chose que ma mère m'a confirmée, puisque ma mère aussi avait eu une angoisse. Sa chef lui avait dit « va chercher ta fille ». Et donc ma mère avait débarqué en pleine après-midi pour venir me chercher. Et elle avait vu que, entre guillemets, j'avais été laissée de côté, limite dans un placard, et qu'en fait, on ne s'occupait pas bien de moi.
Ah
et
ouais.
Le truc est ressorti en séance d'hypnose. Donc peut-être que j'ai fait un transfert sans mon fils.
Ah mais c'est pour ça que tu faisais pas confiance du coup.
Sur faire confiance à quelqu'un sur la nounou. Et donc voilà, tout c'est...
C'est intéressant ce réflexe d'hypnose, d'aller chercher justement... Enfin, tu connaissais cette technique, cette approche
ouais.
Ou alors, t'avais déjà...
J'avais déjà fait, ouais.
Ouais, parce que c'est pas commun quand t'es pas familier, tu vois, d'aller...
Mais
j'adore, hein. J'ai la passion hypnose, hein, mais...
non, mais c'est vrai, mais en fait, je me disais... C'est pas normal. À la fois, c'est pas normal, mais en fait, si, c'est normal à la fin.
Bah, t'as toujours une petite angoisse, mais...
Mais d'être aussi angoissée et de pleurer à l'idée de laisser mon enfant, qu'il doit y avoir quand même peut-être quelque chose, quoi.
Ouais. Et au final, c'était quoi ? Enfin, c'était la séparation
ouais.
Ou c'était vraiment
c'était
le confier à quelqu'un ?
Confier à quelqu'un d'autre que je connaissais pas. Et donc, du coup, j'ai cherché une crèche. Et on a eu la chance de tomber sur une crèche parentale associative dans laquelle j'ai été investie et impliquée, du coup, pendant 6 ans. 3 ans avec mon aîné, 3 ans avec les jumeaux. Le fonctionnement, c'est que c'est une association loi de 1901 avec des parents qui vont gérer tout l'administratif, mais qui vont aussi faire des journées de permanence.
D'accord.
Donc, une fois par mois, on est là de 8h à 19h. On donne des coups de main, je sais pas, laver le linge, ce genre de choses, ou même prendre un petit groupe de 3 enfants, faire des puzzles avec eux. Et à côté de ça, il y a des professionnels. Donc nous, c'était une crèche avec 25 places et 10 professionnels.
Ah, c'est intéressant, comme il y a une crèche, bon, rien à voir, hein. Mais il y a une crèche associative dans la série 10% où le personnage joué par Camille Cotin qui laisse son enfant et elle n'avait pas compris que c'était une crèche associative et qu'il fallait s'investir. Et là, non, mais moi, je ne veux pas et tout. Et donc, du coup, maintenant, je comprends mieux le fonctionnement. C'est intéressant. Mais c'est chouette. Ça existe beaucoup parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler.
Alors, il y en a dans toute la France.
Ah ouais ?
Il faut juste se renseigner. Il y a un réseau des crèches parentales associatives.
D'accord, super. Donc, tu trouves cette crèche, ton fils, il a quel âge à ce moment-là ?
Il a intégré la crèche à 9 mois.
Ok, donc là, t'es plus sereine déjà.
Je suis beaucoup plus sereine parce que j'y vais donc une journée par mois. Enfin, on a alterné avec mon mari un mois, mais j'étais quand même dans le bureau de l'association.
Ouais.
Du coup, je voyais un petit peu comment ça se passait en interne. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé moi dans ce concept-là, surtout quand on a un premier enfant, c'est de l'entraide et du soutien. Parce qu'en fait, on faisait des dîners des mamans, des dîners des papas. Donc, je me rappelle le premier dîner des mamans. Il y en a une qui commence à dire « Ah, moi, j'en peux plus, elle est tout le temps malade, je vais tout le temps chez le médecin. » Et là, il y en a une autre qui fait « Ben, moi aussi. » Et puis moi, « Ben, moi aussi. » Et en fait, la première année de crèche, c'est la pire, quoi. Leur défense immunitaire, on va chez la pédiatre tous les 10 jours, quoi. Donc,
tu prends un abonnement.
Là, c'est un enfer.
Ouais.
Et là, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans la galère. Et puis, on faisait aussi des soirées psy avec la psy de la crèche qui venait. Moi, ça m'a appris à voir que, en fait, on avait tous un TOC. Donc, moi, je catégorise. Hein. Il y a les parents qui sont toqués de la bouffe. Il faut que mon enfant mange et mon enfant ne mange pas. Ceux qui sont toqués du sommeil, il faut qu'ils dorment et ils dorment pas. Ils dorment pas. Et ceux qui sont toqués de tout ce qui est développement psychomoteur. Ah non, mais à tel âge, il doit marcher. À tel âge, il doit parler. À tel âge, non, et il ne le fait pas. Voilà. C'est les 3 catégories que j'ai identifiées suite
c'est drôle et très vrai.
toutes mes soirées parents psy à la crèche. Et donc, voilà, j'ai trouvé énormément de soutien. Et c'est un endroit qui m'a aidé à grandir et à apprendre à être parent.
Mais c'est dingue, enfin, un tel soutien, ça existe. Enfin, j'ai l'impression que ça n'existe pas dans la vraie vie. Enfin, c'est la vraie vie, hein, tu nous racontes, mais c'est rare et c'est précieux, quoi. Ouais. En plus, ça te permet de. Souvent, quand tu deviens parent, t'es hyper isolé, tu vois. C'est le peu que ta famille soit loin ou des choses comme ça. Ouais. Tu te retrouves très vite seul et d'avoir ce soutien-là, d'avoir d'autres parents qui, en plus, ont des enfants à peu près du même âge que le tien. Et donc, c'est hyper riche. Mais il devrait y avoir ça partout.
Bah, ouais.
Mais c'est génial. Du coup, ouais, c'est forcément, tu entres plus sereinement.
Oui.
Toi, t'étais toquée de quoi, alors?
Alors, moi, j'étais toquée du sommeil, assez. Ouais. Moi, il faut que j'aie mes soirées. Alors, avec mon aîné, on a réussi un peu à résoudre le truc. Mais avec mes jumeaux, c'est un peu un enfer.
D'un coup, ça va être plus compliqué à gérer. Mais justement, est-ce que pour toi, il a toujours évident que tu n'aurais pas qu'un seul enfant?
Alors ça, oui. Après, une fois que j'ai décidé d'avoir des enfants, il fallait que j'en aie plusieurs.
Ouais.
Donc alors moi je suis l'aînée et j'ai des petits frères qui sont jumeaux, qui ont 3 ans et demi de moins que moi, qui sont des vrais jumeaux, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et donc faut savoir, donc je raconte la petite histoire, donc moi j'ai toujours eu des jumeaux autour de moi. Toutes mes copines d'école, etc., elles avaient une sœur jumelle.
C'est vrai.
Je connais une quinzaine de pères. Et je sais pas, peut-être qu'il fallait absolument que j'aie des jumeaux aussi. Donc ça m'avait effleuré l'esprit que peut-être j'aurais des jumeaux. Et donc pour le deuxième, on n'arrivait pas à le faire. Et donc au bout de 2 ans d'essai, mon gynécologue m'a dit « on va sûrement tenter une FIV ». Donc on rentre dans la longue procédure de FIV qui ouais.
Attends, parce que tes enfants n'ont pas tellement d'écart en fait.
Ils ont 5 ans.
Ah, 5 ans, ouais, d'accord.
Ouais.
Je sais pas pourquoi je pensais 3, mais...
Non, 5 ans, et donc voilà, la longue procédure, ouais. les analyses, etc. C'est pas une mince affaire, et quand on doit en passer par là, on le fait, mais bon, c'est...
C'est quand même pas agréable. On a fait un épisode avec Charlotte sur la PMA, justement, où elle explique tout le parcours, et c'est quand même assez, aussi bien psychologiquement que physiquement, difficile, quoi.
Ouais, c'est assez lourd. Et en fait, j'arrive... donc on fait 2 premiers essais, mon mari était en mode « je veux pas 3 enfants ».
Ah ouais ?
Et lui, il était sur 2, il m'a dit « 3, c'est trop et tout, j'arriverai pas à gérer... trop de stress, etc. Mmh. Donc, on fait 2 premiers essais avec un embryon. Les 2 premiers ne marchent pas. Et en fait, j'avais plus d'embryon. Enfin, il en restait que 2. Et donc, là, se pose la question. Le médecin nous dit, si on met les 2, il y a quand même plus de chances. Et en fait, c'était un peu la dernière chance parce que moi, je voulais pas refaire la ponction, etc. Je m'étais dit, soit ça marche, soit on reste avec un et c'est pas grave, quoi. On en a mis 2. On était tous les 2 là.
Ouais.
Et donc, je suis enceinte. Je me sens hyper mal, hyper fatiguée, etc. On va à la première écho avec mon mari. Je dis à l'infirmière, oh là là, mais je suis à plat comme jamais. Et là, elle commence à faire l'échographie. Et là, je vois la tête de mon mari. Parce qu'en fait, mon mari, il a travaillé dans tout ce qui est imagerie et tout. Et donc,
il connaît.
Tout de suite vu qu'il y avait les 2. Et donc, l'infirmière me dit, je comprends pourquoi vous êtes à plat. Il y en a 2. Voilà. Et l'anecdote, c'est que mes frères donc, sont des vrais jumeaux. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Et moi, mes jumeaux, j'ai un blond aux yeux bleus et un brun aux yeux marron.
C'est drôle.
Donc, en fait, ceux qui me connaissent ne comprennent pas. Parce que, je parle librement de ma PMA, mais tout le monde n'est pas au courant. Enfin, c'est pas le truc que je dis de.
Tu l'as pas mis sur le faire-part, quoi.
Voilà. Et donc, tout le monde est en mode, mais c'est bizarre, je comprends pas.
Ouais, comme t'as des jumeaux dans la famille, voilà. Génétiquement, ouais.
Ça devrait être comme ça. Donc, c'est un peu la petite anecdote, quoi.
Ouais, c'est drôle. Et alors, il a mis combien de temps à digérer le choc?
Alors, je sais
il
pas.
Il digère si toujours pas.
Je crois qu'il digère toujours pas.
Et toi, comment tu réagis à l'annonce, justement?
Moi, hyper, hyper contente. Et puis, je me dis, de toute façon, mes parents, ils ont réussi à le faire. Donc, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas.
Ouais.
Et donc, je pense que je suis partie assez sereine. Donc, ils vont avoir 4 ans en janvier. Les 2 premières années, pour moi, c'est que de la logistique. En fait, il faut pas se poser de questions. Il faut y aller, on y va et tout. Allez, je sais plus combien de biberons par jour.
Les couches et tout. Ouais, voilà, c'est tout par 2, quoi.
Tout par 2. C'est 18 biberons. Mmh. C'est hallucinant. Donc, c'est de la logistique. On se pose pas de questions, on y va. Et depuis leur, 20 mois... Là, on rentre dans la guerre psychologique.
Ah ouais.
Ouais. Ils s'entraident. Donc, dès qu'on commence à en gronder un, il y a l'autre qui arrive et qui dit « Tu grondes pas mon frère
». Oui.
C'est pas la même chose, quoi. Et donc, ça demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie.
Ouais. Et ton aîné dans tout ça
Alors, en fait, comme moi, je suis grande sœur de jumeaux, la première chose que j'ai faite, en fait, quand ils sont nés, déjà, j'ai pris une nounou pour s'occuper des jumeaux à 4h30, pour moi-même aller chercher mon fils aîné et pour avoir un temps
privilégié
avec lui. Mes parents sont venus pendant un an tous les mercredis, énormément de chance, pour que je sois avec mon aîné, que je l'emmène à ses activités, etc.
Pendant
que mes parents s'occupaient des jumeaux.
Il savait comment s'occuper de jumeaux, il l'avait déjà fait.
Ouais. Parce que c'est vrai que moi, en tant que grande sœur de jumeaux, j'adore mes frères, mais voilà, ça prend de la place quoi, quand on est petit.
Ouais, c'est clair.
Et moi, je pense que je dis souvent, j'ai le caractère que j'ai et je suis quelqu'un de très autonome, mais je pense que c'est parce que j'ai eu des petits frères jumeaux.
Ouais. Qui ont accaparé l'attention des parents et ce qui était logique finalement.
Bah oui, parce qu'il y en a deux à s'occuper, ouais. Donc il faut bien le faire et moi je le vois. Et c'est vrai que par exemple, là, cette année, la donne a un petit peu changé puisque les jumeaux sont rentrés à l'école là, depuis septembre. Et avant, donc, je télétravaillais le mercredi avec le grand. Donc, j'avais quand même encore toujours cette journée de privilège avec lui. Et maintenant, il y a les deux autres.
Ouais.
Et je le vois bien. Il y a des trucs où je passe à côté. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite histoire à l'école avec ses copains. D'habitude, il me le dit tout le temps. Et là, il n'a pas pris le temps de me le dire. Et je sais que c'est parce que... il a ses frères qui prennent beaucoup d'attention.
Ouais, c'est clair. C'est pas évident, ça, qu'on ait des multiples ou pas, hein, d'ailleurs. Quand, à partir du moment où on a une fratrie, d'accorder du temps seul à seul avec chacun. Mais ça reste, je pense, important quand même de le faire. Et c'est bien que tu aies eu ce réflexe, mais encore une fois, tu l'avais vécu, donc forcément, ouais. C'était plus facile comme ça. Professionnellement, est-ce que l'arrivée des jumeaux, ou même de ton premier, a changé quelque chose pour toi ?
Alors, l'arrivée du premier, ça n'a rien changé. J'étais dans ma ligne de carrière. Quand j'ai eu mon aîné, j'ai eu une promotion en rentrant de congé mat.
Ah ouais, génial.
Donc,
Tout le monde va avoir envie de bosser pour cette boîte.
Oui, alors c'est vrai que là-dessus, il n'y a rien à dire quoi, sur la manière dont sont traités les salariés, l'équilibre vie pro-perso, la promotion... Ouais. Les stéréotypes, machin. Enfin, c'est vrai que c'est une boîte qui est exemplaire. Et donc, pour le premier, aucun problème. Pour les deuxièmes, en fait, je commençais déjà à avoir l'entrepreneuriat qui me titille un peu. Donc, j'avais créé un programme de mentorat de start-up avec Shell. Donc, j'étais déjà un petit peu dans l'univers des start-up. Et puis, je faisais du mentorat pour un club qui s'appelle Génération Startupeuse, qui dépend de l'ESSEC, qui sont des femmes qui créent des entreprises avec de l'impact environnemental, éducation, enfin voilà. Et donc, je faisais du mentorat. Et il y avait quand même pas mal de choses où je faisais beaucoup de veille aussi. Et je me disais, ouais, c'est bien, toutes ces idées. Enfin, je trouvais que ça foisonnait. Et je trouvais que moi, à l'intérieur de la grande entreprise, ça n'allait pas assez vite. Et donc, souvent, je revenais avec des idées que j'avais vues dans les startups. Et je disais, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et on me disait, mais Solène, c'est une bonne idée, mais on ne va pas le faire maintenant.
Ouais.
Et moi, ça me frustrait un petit peu. Et j'avais tout le temps des idées de boîte et j'avais tout le temps des idées d'application. Je suis un petit peu geek là-dessus. Alors, ma première idée d'application, je l'ai dit pour l'anecdote, parce que c'est rigolo, c'était qui a mangé quoi chez moi. Je voulais faire une application où quand on a quelqu'un qui vient manger à la maison, on note ce qu'il a mangé parce qu'en fait... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je tourne toujours sur les mêmes plats.
Quand tu reçois,
je reçois.
Moi, j'adore la période octobre, février, parce que c'est raclette.
Voilà. Et en fait, je me disais, pour ne pas refaire toujours la même chose à manger à mes potes, je fais une petite appli toute simple, là, qui a mangé quoi chez moi.
C'est génial.
Et donc, j'en parle à un copain développeur, et il me dit, non, mais tu sais, Solène, il ne suffit pas de faire une appli, de la mettre sur les stores pour que ça fonctionne. Ok. J'avais pris le point. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'étais DRH en charge de la stratégie pour une des entités de Shell à l'international et il y avait une réorganisation. Et je devais en fait designer les futures organisations. Et j'ai dit à ma chef, je pense que mon poste, on pourrait le dispatcher, etc. En fait, en discutant, je me suis fait un peu harakiri, ce qui m'a permis de partir avec un plan de licenciement et de pouvoir prendre le temps de créer ma boîte. Et donc, je suis partie... En fait, je suis revenue de congé mat, je suis restée 5 mois
ouais.
Et je suis partie.
Ah ouais. Et quand t'es partie, à ce moment-là, t'avais une idée précise ou...
Ouais, déjà.
tu nous racontes.
Alors en fait...
Parce que c'est lié avec ta parentalité, bien sûr, et ouais. Tout ça, tout est lié. Donc,
Tout est lié. Donc en fait, à l'époque où j'ai eu cette idée, mes jumeaux sont nés en 2018. Et donc c'était en 2017. On me demande de travailler sur l'impact de l'automatisation et de la robotisation sur les compétences et les types de profils qu'on a. Est-ce qu'on va être obligé de changer parce qu'il va y avoir tellement d'automatisation qui va être faite par l'intelligence artificielle, etc., qu'on n'aura plus besoin des mêmes personnes. Et en fait, en travaillant là-dessus, j'apprends que 75% des écoliers d'aujourd'hui, donc des enfants qui sont en primaire, font des métiers qui n'existent pas encore. Et donc là, je pense à mon fils aîné et je dis, mais comment est-ce que je le prépare à des métiers qui n'existent pas encore? Et donc, je cherche un petit peu et je découvre que c'était un petit peu quand même... La réponse était un peu devant moi, puisque la réponse, c'est de développer les compétences socio-comportementales des enfants, donc les soft skills en anglais.
Ouais.
Et en fait, il y a un certain nombre d'études, et notamment le rapport de deux prix Nobel, ils ont eu le prix Nobel en 2013, qui ont suivi en fait, pendant 20 ans des enfants qui ont bénéficié d'un programme qui s'appelle le Perischool Programme, où ils avaient leurs compétences socio-comportementales qui étaient développées. Et donc, en fait, il y avait deux cohortes, une où c'était développé, une où c'était pas développé. Ils les ont suivis jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le marché du travail.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte que en développant les compétences socio-comportementales, donc la confiance en soi, la persévérance, la curiosité, l'esprit critique, les enfants avaient des meilleurs résultats à l'école, donc ça augmente la réussite scolaire. Ils avaient des meilleurs jobs, des jobs plus qualifiés, des meilleurs salaires et aussi un niveau de bien-être qui était supérieur aux autres. Donc moi, quand je lis tout ça, et aussi des études américaines sur le sujet, je me dis waouh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Et c'est vrai que moi, en fait, chez Shell, j'ai été recrutée en 2005 sur mes compétences socio-comportementales. J'avais trouvé l'entretien hyper bizarre parce qu'on ne regardait pas mon CV, on ne posait aucune question RH.
On
ne
t'a pas demandé tes trois qualités, tes trois défauts.
Non, en fait, on a testé ma capacité à gérer un projet et aller jusqu'au bout, la manière dont je collaborais avec des personnes différentes de moi et ma capacité d'analyse, comment est-ce que je prenais un sujet et que je le décortiquais. Et tous les ans, en fait, on revoyait, il y avait des compétences socio-comportementales qui étaient exigées au sein de l'entreprise, on les revoyait, on en discutait avec notre chef, etc. Donc en fait, c'était déjà quelque chose qui était un peu dans mon ADN via mon entreprise. Et donc, j'avais quand même envie d'avoir un impact assez important. Et surtout, je ne voulais pas rester sur du franco-français parce que j'avais une carrière internationale. Et donc, pour moi, une application, c'était un moyen de pouvoir avoir un maximum de personnes qui allaient être touchées et je pourrais la sortir en anglais, en français. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai quitté Shell. En février, en mars, j'ai intégré un programme HEC, qui est un programme pour ceux qui ont une idée de start-up. Et au bout de 9 mois, on sort avec un prototype.
Ah, super.
Et donc, ça s'appelle HEC Challenge Plus. Et donc, je suis arrivée avec mon idée. Au bout de 9 mois, je suis sortie un prototype avec un programme pour cultiver la confiance en soi des enfants. Parce que pour moi, c'est un peu la base, la confiance en soi, la base de tout, via de la gamification. Donc en fait, c'est des mini-jeux que les parents et les enfants vont faire ensemble sur à peu près la moitié des jeux. Donc par exemple, ça peut être, on a un mini-jeu sur Découvre tes super-pouvoirs. Donc c'est un jeu de swipe où l'enfant, il doit mettre quel super-pouvoir il pense avoir ou pas. Pour donner un exemple d'un retour d'une maman, elle me dit, je comprends pas, j'étais à côté de lui, sur la vignette organisée, il a pas coché, alors que moi je trouve qu'il est hyper organisé, son cartable le matin, tout seul, etc. Et donc elle me dit, ça veut dire que la manière dont lui il se voit, c'est pas la manière dont moi je le vois, et donc ça génère des discussions.
Ouais, c'est intéressant. Et du coup, avant de créer l'appli, comment toi tu l'avais appliqué, parce que tu disais tu avais pensé à ton fils, tout ça, comment tu l'avais appliqué à la maison avant? Enfin, comment t'as trouvé ces exercices-là? Tu travailles avec des personnes
Ouais. J'essaye de trouver des experts. Donc, par exemple, la confiance en soi, je l'ai fait avec les conseils d'un pédopsychiatre qui me dit, pour avoir confiance en soi, un enfant, déjà, il doit avoir une bonne estime de lui. Pour avoir une bonne estime de lui, il doit savoir de quoi il est capable et ce qu'il a déjà fait. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un jeu, mais qu'on peut faire très bien sans l'appli. Moi, je conseille souvent, parce qu'il y a une interface parent, de sortir les albums photos. Vous mettez à côté de votre enfant et vous lui montrez tout ce qu'il a appris depuis qu'il est né. Ah bah tiens, regarde. Ah bah là, tu te rappelles, tu savais pas manger tout seul avec une cuillère ou une fourchette. Maintenant, tu sais. Ah bah tiens, tu savais pas faire du vélo. Maintenant, tu sais. Ah, tu savais pas écrire. Tu ne savais pas parler. Ouais. Enfin voilà. Et en fait, quand ils font la liste de tout ce qu'ils ont appris, ils se disent oh là là, mais je suis capable de plein de choses. Parce que c'est vrai, quand on est en primaire, on a l'impression qu'on a toujours fait tout ouais. ça, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'essaye de m'appuyer d'experts. Et après, je lis énormément pour trouver le truc qui va faire que je vais réussir à cultiver la confiance en soi, la curiosité, la réflexion. Voilà.
Tu vois une différence au quotidien, toi, en l'essayant avec... Enfin, en l'essayant, je ne dis pas ça parce que tu te testes sur tes enfants, mais est-ce que tu vois une différence par rapport à avant, tu ne l'appliquais pas forcément, à aujourd'hui sur tes enfants?
Alors, je vois une différence et sur mes enfants et sur moi.
Ouais.
Et il y a un truc auquel je ne m'attendais pas. C'est vrai que moi, je l'ai fait dans un objectif d'aider les enfants à réussir, à être mieux dans leur basket. Voilà, c'était vraiment... c'est un des premiers objectifs, mais en fait le bénéfice que je vois et que je n'avais pas vu, c'est que ça diminue ma charge mentale sur plein de sujets.
Ah ouais,
ouais.
Pourquoi?
Mais parce qu'en fait, en développant ces compétences, on développe énormément l'autonomie de nos enfants. Et je vais donner un exemple en ce moment. J'ai un sujet, c'est les devoirs. Donc moi, j'ai le groupe WhatsApp du CM1B qui est plein de notifications.
Ouais.
Parce que les enfants ont peut-être, je ne sais pas, oublié leur cahier, etc., leur devoir. Et du coup, les parents demandent les photos des exercices, de la leçon, etc. Mmh. Moi, c'est quelque chose sur lequel je ne peux absolument pas aider les autres parents, puisqu'en fait, j'ai développé l'autonomie de mon enfant, sa responsabilité, sa confiance en lui. Et donc, on a passé un espèce de contrat. Je lui ai dit, Octave, tu vas faire tes devoirs tout seul, puisque tu es en âge de faire tes devoirs tout seul. On va se mettre des objectifs de notes à atteindre. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire dans telle ou telle matière? Donc, en fait, il sait déjà où il est fort et il sait les trucs qu'il aime moins bien. Et donc, on regardera à la fin de la semaine comment tu as travaillé. Et si tu as atteint tes objectifs, si tu les as pas atteints, je viendrai t'aider. Si tu les as atteints tout seul, j'aurai pas besoin de venir t'aider. Et du coup, en fait, moi, je ne mets pas le nez dans les devoirs de mon fils. Je lui dis, j'ai confiance en toi pour que tu y arrives. Et en fait, jusqu'à présent, ça marche. Bon, des fois, il y a un ou deux exercices à revoir et je me dis, ah là, tu n'as peut-être pas trop compris la règle, donc je vais revoir avec lui. Mais je n'ai pas besoin de me dire tous les soirs, comme je le vois pour certains parents, donne-moi ton carnet de correspondance, je vais regarder ce que tu as fait, attends, je check, est-ce que tu as bien ta leçon,
vérifier, quoi.
Vérifier.
Faire un peu la police
voilà.
du devoir.
En fait, je lui dis, j'ai pleine confiance dans tes capacités, tu t'es mis des objectifs, tu les attends, j'ai pas besoin d'aller vérifier derrière.
Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, ça apporte ses fruits.
Pour l'instant, ça marche.
Ouais.
Sur l'organisation, on a commencé à mettre ça en place en CE1. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai plein de choses à faire. Je pense que tu es quand même capable de préparer tout seul ton goûter, de le mettre dans le cartable, de savoir que demain, tu as sport, etc. Et donc, en fait, il prépare son goûter tout seul. Une fois, il l'a oublié. Il a eu faim. Et du coup, il ne l'a plus jamais oublié. Mais voilà, je me dis... En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on assiste énormément nos enfants. On fait tout à leur place et préparer le goûter et vérifier. J'avais même une discussion il n'y a pas longtemps au parc avec des mamans, d'élèves en CM1, qui disaient c'est moi qui leur prépare leurs habits. Et je disais, mais moi, il met ses habits, ouais, mais bon, il va peut-être pas bien s'habiller. Alors je leur dis, moi déjà, je pars du principe que comme c'est moi qui achète les habits, c'est à peu près de bon goût. Donc,
Il associe ce qu'il veut avec ce qu'il veut.
Et donc, il fait quoi. Et donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment développer leur autonomie. Et moi, par exemple, dans l'application, il y a un module sur aussi les choix, parce que les enfants, ils ont l'impression qu'en tant qu'adulte, on choisit tout à leur place. Et en fait, on leur montre qu'au quotidien, ils choisissent leur dessert, ils choisissent avec quels amis ils ont envie de jouer dans la cour ou pas, ils choisissent quels vêtements ils ont envie de mettre, de quelle couleur le t-shirt, etc., dans la journée, etc. Et qu'en fait, on leur fait confiance aussi pour faire des choix éclairés. Alors, pas forcément sur tout, mais qu'ils ont quand même une marge de manœuvre.
Et avec des plus petits, parce que toi, du coup, à la maison, tu as aussi des plus petits.
Ouais.
Comment ça se traduit, tout ça?
Là, en fait, c'est marrant, parce que hier, justement, je disais à la babysitter du mercredi, je disais, là, en fait, c'est dur en ce moment, mais on capitalise pour l'avenir.
C'est beau d'avoir l'espoir.
Voilà. Parce que, en fait, elle me disait, oui, elle me parlait d'un des jumeaux, Armand, elle me disait, ah, mais il a été comme ça. Je dis, Octave était pareil au même âge. Donc, je lui dis, là, en fait, on est dans la période où il faut répéter. Et en fait, moi, ce que je trouve formidable, et c'est ce que m'a appris aussi la crèche, c'est que je trouve qu'entre 0 et 6 ans, enfin, c'est vrai qu'à 7 ans, on commence déjà à mieux voir leur personnalité, mais entre 0 et 6 ans, pour moi, on est dans... C'est un peu comme les startups, hein, du test and learn. Donc, on teste, on apprend. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Et mon aîné, des fois, il me dit « Mais je ne comprends pas, tu avais dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, et puis maintenant, ils ont le droit. » Je dis « Mais oui, mais parce qu'en fait, on apprend, ils grandissent, il y a un moment. » Et donc, il y a des choses que j'essaye de mettre en place qui vont marcher à un moment, et d'autres bah, qui ne vont pas marcher. Alors, moi, je suis très... Comme ils sont en construction, déjà, évidemment, j'ai 3 garçons, donc ça bouge beaucoup à la maison. Il y a beaucoup de bagarres, donc j'essaye vraiment de jamais en pointer un ou un autre. Et en fait, je suis très dans les règles de la maison, c'est... S'il y en a un qui tape, je vais jamais dire c'est un tel qui a tapé un tel et t'as pas le droit et tout. Les règles de notre famille, c'est qu'on ne tape pas. Voilà, je veux pas savoir qui a fait telle ou telle chose. Donc voilà, on a un peu établi les règles tous ensemble. Après, il y a beaucoup, par exemple, dans les soft skills que je développe le plus avec mes petits, donc il y a ce qu'on appelle la gestion des émotions, mais moi, j'aime pas le mot gestion, je parle plutôt
d'appréhension,
la connaissance, ou l'accueil de ces émotions. Donc moi, depuis qu'ils ont 18 mois, ben, on a le livre « La couleur des émotions » qui est à disposition dans le salon. Donc depuis qu'ils ont 18 mois, ils vont chercher le livre. Ils sont même capables de dire, en tournant la page, « Mon frère a telle ou telle émotion ». C'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Et donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils arrivent à ressentir leurs émotions, mais les bonnes comme les mauvaises. C'est-à-dire, je leur dis bah, « Ok, là, t'es en colère, t'es pas content parce que ton frère, il a fait ci ou il a fait ça. T'as le droit d'être en colère. » Mais rappelle-toi, 5 minutes avant, t'avais beaucoup de joie parce que vous étiez en train de jouer ensemble. Et en fait, j'essaie vraiment de leur apprendre toute la panoplie des émotions qu'on peut avoir pour ne pas rester dans les émotions dites négatives. Mais c'est pareil,
mais elles sont toutes aussi importantes.
Voilà, elles sont toutes aussi importantes. Et en fait, j'essaie de leur apprendre que l'émotion, c'est quelque chose de passager. Et c'est vrai que là-dessus, moi, il y a un livre que je conseille, c'est le livre de Daniel Siegel, « Dans le cerveau des enfants », avec des mini-BD.
Ouais.
Voilà, c'est ce qu'il dit, il faut aussi aider nos enfants à comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, j'ai pas de tabou à leur dire... j'ai un des deux jumeaux qui est plus hypersensible que l'autre, à lui dire, mais là, c'est tes émotions qui débordent, il n'y a pas de problème, t'as le droit d'être comme ça. Donc voilà, donc pour les plus petits, en fait, ce que j'essaye de développer le plus, c'est cette gestion des émotions, la confiance en soi. Je suis hyper contente parce qu'ils sont déjà capables de dire ce qu'ils aiment.
Ouais.
Enfin, je veux dire, à 4 ans, j'en ai un, il dit « Moi, ce que j'aime, c'est le chocolat, le rouge et les félins. » Voilà.
Génial.
Et en fait, être capable de savoir ce qu'on aime, c'est tellement important, je trouve, dans la vie. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant avec ma filleule, elle n'arrivait pas à choisir...
son plat ?
Non, la glace.
Le parfum.
Et donc... Je lui dis, mais tu connais pas ton parfum? Je lui dis, moi, dès que j'arrive chez un marchand de glace, je sais que je vais prendre soit noix de coco, soit amande chocolat. Enfin, c'est comme ça.
Ouais.
Enfin, et je lui dis, c'est hyper important que tu arrives à connaître tes goûts parce que sinon, tu vas toujours hésiter dans ta vie. Et en fait, pour avancer, il faut quand même bien se connaître et pouvoir prendre des décisions et faire des choix. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye déjà de leur apprendre. Ça a généré une discussion là cet été avec mon mari parce que j'avais acheté 3 paquets de glace différents. Parce que les 3 m'ont demandé des glaces différentes. Et il m'a dit, mais ça va pas. Il fallait acheter un paquet, la glace pour tout le monde. Et je lui dis, non, mais moi, j'ai envie qu'ils voient qu'ils sont différents et qu'ils ont chacun des goûts différents et qu'ils sont pas obligés de faire tous les 3 la même chose, quoi.
Et que c'est important, en fait.
Et que c'est important.
Ça les rend hyper singuliers, du coup, et ça, c'est chouette. Même si t'achètes plus de glace, de toute façon, on n'a jamais trop de glace, de toute façon.
Vrai.
Donc, c'est hyper intéressant. Du coup, ton application, elle s'appelle, je te laisse dire parce que moi...
Soft Kids, les soft skills pour les kids.
Ouais. Tu l'utilises pour des enfants tout petits aussi ou alors...
Alors, c'est du CP au CM2. La seule chose qui peut être utilisée pour les enfants de maternelle, c'est qu'il y a des outils gratuits en fait, pour le quotidien. Il y a par exemple des séances de sophrologie.
Ah, génial.
Donc des mini-séances de 5 minutes, donc ça pour un peu calmer l'enfant. Il y a aussi de la cohérence cardiaque. Donc, c'est un truc pareil qui aide vraiment à se sentir bien, à pouvoir se recentrer, etc. Et sinon, donc, c'est du CP au CM2. C'est des programmes avec à chaque fois 10 mini-jeux. Donc, on va mettre en moyenne 12 minutes pour faire les jeux. Et ça va aider l'enfant, un, à mieux se connaître. Et deux, à trouver des pistes. Bah, par exemple, on a un programme sur la persévérance avec des mises en situation. Tu as décidé de faire un puzzle de 1000 pièces. Comment tu vas t'y prendre? Et en fait, on leur explique la technique des petits pas, le fait qu'il ne faut pas penser au puzzle de 1000 pièces. Il faut penser d'abord à « Ok, comment je m'y prends ? Je vais trier les couleurs, je vais commencer par faire le tour, après je vais commencer à droite, à gauche. » Enfin voilà, on leur explique des petites techniques comme ça.
Ah super. Est-ce que tu es en lien avec notamment l'éducation nationale et le corps enseignant ?
Alors, oui et non.
Parce que c'est un sujet, ça aussi, tu vois.
Donc là, en fait, j'ai fait un programme de 5 mois au CRIC, qui est le Centre de Recherche Interdisciplinaire, qui a été créé par François Taddeï, dans lequel, en fait, il y a beaucoup de chercheurs, d'enseignants. J'ai fait ce programme avec des directeurs d'école, des membres de l'éducation nationale. Pour l'instant, l'application, elle n'est pas disponible pour les écoles, mais ça ne serait tardé puisqu'on est en train de faire les changements. Parce qu'en fait, on a des écoles qui les téléchargent.
Ah ouais ?
Ouais. Mais l'interface est faite avec parents-enfants. Donc là, il va falloir qu'on fasse des ajustements. Et en fait, il y a des sujets qui intéressent les enseignants, du type le programme Esprit Critique. Là, j'ai beaucoup de demandes. Par exemple, demain, j'interviens dans un... C'est pour ça que je suis dans le Nord, dans une école, sur le stress et la gestion des émotions des élèves. Je commence à avoir de la demande, donc je vais être obligée d'y répondre. Mais pour l'instant, c'est un peu difficile de travailler avec l'éducation nationale pour l'ensemble des startups de l'éducation.
Ouais.
Pour la bonne et simple raison, enfin, c'est assez technique, c'est qu'en fait, les profs n'ont pas de carte bancaire éducation nationale pour prendre les applis sur les stores.
Ouais. Il faudrait que ce soit automatique sur des tablettes qu'ils auraient à disposition. Et, ouais.
Mais l'éducation nationale est en train de travailler sur le sujet.
C'est une bonne chose, ça. Ouais. C'est chouette. Est-ce que tu penses, parce que là, tu dis ton aîné est en fin de primaire, mine de rien, est-ce que tu penses que tu vas développer à tout ce qui est collège et tout ça en même temps que son évolution ou pas ?
Sûrement, parce que j'ai de la demande.
Ouais.
Ouais.
Parce que ouais, tu t'arrêtes là, mais en fait après au collège c'est encore d'autres problématiques finalement.
J'ai de la demande et puis en fait là le dernier rapport là qui vient de sortir, tu disais l'étude de l'OCDE dont j'ai, je sais plus si j'en ai parlé en début du podcast ou pas.
Je ne sais plus si on l'a évoqué en off ou.
En fait donc l'OCDE vient de sortir le premier rapport sur les compétences socio-comportementales des élèves. Ils ont évalué ça avec les enseignants, les parents et les élèves dans 10 pays dans le monde. Et en fait, le rapport montre que plus on grandit et plus les compétences socio-comportementales baissent, en fait, parce qu'on commence à être normé par l'école. Mmh. Et par exemple, il y a une compétence qui est essentielle et qui a démontré, en fait, via cette étude, son importance pour les résultats scolaires, notamment en mathématiques, c'est la curiosité.
Ah.
Et en fait, plus on grandit, moins on est curieux.
Mais oui, mais on nous bride vachement aussi sur la curiosité en nous faisant croire que c'est un défaut, par exemple.
Sauf que plus on est curieux, plus on est bon en mathématiques, d'après cette étude qui vient de sortir.
Ouais.
Et donc, en fait, ce qui veut dire qu'il faut, il faut continuer à développer ses compétences et il ne faut pas le faire qu'en primaire, puisque l'étude dit qu'apparemment, en fait, la manière dont on nous demande de nous positionner en classe fait qu'on se bride et qu'on ne développe pas en fait nos compétences socio-comportementales au plein potentiel de ce qui pourrait nous aider à réussir en fait.
C'est intéressant, mais ouais, et puis il y a plein de choses qui rentrent en jeu aussi sur avec l'adolescence, avec le rapport aussi au corps qui change, le rapport à soi, et c'est là aussi qu'on perd parfois pas mal de confiance avec le regard des autres et tout ça. C'est vrai que ça peut être intéressant, mais ça doit être différent. L'approche doit être vraiment différente qu'avec des enfants plus jeunes finalement, et à travailler, à faire, à suivre. Écoute, merci beaucoup Solène. Où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver ton travail? Comment télécharge cette application magique?
Alors il faut taper SoftKids soit sur Google Play, soit sur Apple Store. Sinon le compte Instagram c'est SoftKids App. Sinon si on veut me suivre dans ma vie de maman mais surtout de gourmande, c'est Solène et ses kiffs sur ouais. Instagram. Et sinon, sur LinkedIn, je réponds à tous les messages si on veut me poser des questions un peu plus pro.
De toute façon, moi, je mettrai tous les liens, bien sûr, en description de l'épisode. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Ça sera plus facile. Parfois, on ne retient pas tout. Tu as cité notamment des ouvrages qui peuvent être intéressants. Je vais mettre tous les liens, tout noter. Et comme ça, vous aurez tout à disposition. Merci, Solène, pour cet échange. C'était passionnant.
Merci
C'était
à toi.
C'était hyper enrichissant. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.